avec Patrick Zweifel qui vient de nous rejoindre en plateau, chef économiste de Pictet Asset Management. Bonjour Patrick.
Bonjour Étienne.
Merci d'être avec nous ce matin en plateau. Pour faire un petit point d'étape, c'est vrai qu'on l'a vu là, les négociations visiblement se passent plutôt bien entre les délégations américaines et iraniennes, négociations d'ailleurs qui se tiennent en Suisse.
Absolument.
Oui, Pictet. Le marché en tout cas y croit, on l'a vu sur la partie action, l'ensemble des indices sont sur des plus hauts historiques ou presque. Le pétrole est à 76 $. Bon, néanmoins, il y aura quelques séquelles à court terme, notamment pour certains pays en Asie, notamment l'Asie du Sud-Est. Mais quand vous regardez ce qui se passe en Chine, par exemple, bon, pas de récession en vue, d'un point de vue général, oui. Loin de là.
Non, absolument. Je crois que bon, il y a plusieurs tendances à distinguer. Enfin, si on commence par la Chine, ce qu'on a vu, c'est qu'on a eu une transmission classique, effectivement, du choc pétrolier avec une inflation qui a remonté. L'inflation en Chine, on sait qu'elle était, elle était plutôt en déflation, donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais on a eu, effectivement, un impact négatif sur la croissance des ventes de détail, de la consommation, etc. Donc ça, c'est l'élément classique. En revanche, ce qui tire toujours la Chine, c'est plutôt, évidemment, les exportations qui bénéficient aux manufacturiers qui continuent d'investir. Et ça, ça correspond à une demande accrue pour les principaux partenaires commerciaux de la Chine. Donc ça bénéficie effectivement à ses voisins, ça bénéficie au reste de l'Asie et l'Asie du Sud-Est que vous mentionnez, qui a été effectivement les plus grandes victimes. Donc si on prend les traditionnels pays exposés au choc pétrolier, c'est la Thaïlande, c'est les Philippines qui ont bien souffert de cette hausse du prix du pétrole. Et puis autrement, on a aussi l'Asie du Nord, qui en général souffre beaucoup, comme la Corée, Taïwan, mais qui là ont extrêmement bien résisté. Et ils ont bien résisté parce qu'on a des tendances de fond qui sont liées aux investissements dans l'IA, qui sont liées aux investissements dans le renouvelable, qui sont liées à plein d'investissements qui sont faits à travers le monde dans des infrastructures et autres. Et là, ça a changé complètement la donne, je dirais.
C'est vrai que l'intelligence artificielle en bourse, ça trompe un petit peu la vision, notamment sur les indices boursiers. On l'a notamment vu avec le Kospi, qui d'ailleurs a perdu 10% ce matin. Mais d'un point de vue macroéconomique également, ça change la donne. Quand vous regardez des exportations où vous avez des inflations à 2 voire 3 chiffres sur certains composants électroniques, oui, c'est un impact macroéconomique.
Oui, alors absolument. Ça veut dire que ce qui se passe traditionnellement quand on a un choc du pétrole, c'est les économistes vont vous dire on a une détérioration des termes de l'échange. Ça veut dire que les prix à l'importation montent fortement alors que les prix à l'exportation n'ont pas de raison de bouger. Mais il se trouve que dans ce cycle-là, on se retrouve dans le cas de la Corée avec des prix des semi-conducteurs qui font bien mieux effectivement que la hausse du prix du pétrole. Ouais. Donc on a le rapport des prix à l'exportation sur les prix à l'importation qui sont en hausse de plus de 17%. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir une détérioration de la balance commerciale en Corée, par exemple, comme on a eu -2,5 pendant la guerre en Ukraine, cette fois, on a +5. Donc on a effectivement un changement complet. Et donc, ce qui soutient effectivement le marché coréen. Enfin, en tout cas, l'a soutenu. Parce qu'initialement, on a eu une baisse d'à peu près 20% au moment du choc. Mais il a rebondi de 66. Alors évidemment, c'est très volatile puisqu'il retombe là de 10. Mais globalement, effectivement, les fondamentaux coréens ne sont pas les fondamentaux classique d'une crise pétrolière.
Justement, une fois qu'on enlève tous ces vecteurs liés à l'intelligence artificielle, comment ça va aujourd'hui, cette économie, notamment du côté de la Corée, du côté de la Chine? On aura peut-être l'occasion dans un instant de parler de l'Inde, mais une fois qu'on gomme un peu ces effets liés à l'intelligence artificielle.
Mais je crois qu'il y a... Alors, l'intelligence artificielle, c'est évidemment le thème que tout le monde couvre, que tout le monde connaît, et on voit effectivement qui tire les marchés boursiers. J'ai l'impression qu'il y a d'autres thèmes qui sont venus quelque part en soutien de ces pays d'Asie, mais plus globalement les émergents. Je crois que le deuxième, et je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est une demande pour le renouvelable, même si elle se fait plus véritablement de la part des États-Unis, mais du reste du monde, de la Chine en particulier, de l'Europe aussi. Et donc ça accroît la demande de plein effectivement de matières premières qui sont utiles au processus de création d'énergie renouvelable. Et on peut penser à l'uranium qui bénéficie au Kazakhstan, on peut penser au lithium, au nickel, au cuivre qui vont bénéficier à des pays comme évidemment le Pérou, le Chili, en Argentine, la Zambie, la Mongolie et l'Indonésie qui va produire un certain nombre de ces produits-là. Donc on a globalement le prix des indices des métaux industriels a fait plus de 40%. donc a quelque part largement compensé effectivement cette hausse du prix du pétrole pour beaucoup de ces pays. Donc je crois que c'est ça, c'est une lecture qui est complètement différente des crises passées.
Patrick Zweifel, vous êtes chef économiste de Pictet Asset Management. La semaine dernière, on a eu les ventes au détail en Chine. Elles se sont contractées au mois de mai. C'était la première fois depuis 2022. Ça montre quand même qu'on a une économie chinoise qui est toujours en difficulté quand même. Les ventes au détail, c'est un élément important de la constitution du PIB, avec bien sûr l'immobilier. On en reparlera dans un instant.
Oui, absolument. Donc si on prend... Les ventes de détail, c'est une des séries de un des indicateurs économiques chinois qui est très suivi, publié tous les mois. Oui. Comme vous l'avez dit, il est en contraction. Maintenant, ce qu'on a observé en Chine depuis le Covid, en fait, c'est un changement assez drastique de la manière de consommer des Chinois. Ça veut dire qu'on est passé d'une consommation très forte en biens assez classiques vers une consommation beaucoup plus forte de services. Donc de transport, de tourisme, de loisirs, etc. Ce qui fait que si on prend la composante globale de consommation chinoise, qui inclut les services, mais qui est publiée qu'une fois tous les trois mois, ben là, la consommation chinoise résiste beaucoup mieux. Ça veut dire qu'on est quasi au niveau de la croissance du PIB, on est entre 4,5 et 5. Donc pas assez pour que la conso prenne plus de place dans le PIB, ce que les Chinois souhaiteraient. Mais on n'est pas dans la situation aussi catastrophique que montre l'évolution des ventes de détail.
Et ça colle par exemple avec hier un broker qui a revu à la baisse son objectif de cours sur Hermès, hein, d'ailleurs qui a perdu 5%, encore à moins 2 ce matin, en se disant la consommation en Chine, c'est pas ça, notamment dans le secteur du luxe. Par contre, ce que vous nous dites, c'est que par exemple sur les voyages, ça tient plutôt bien.
C'est ça, exactement. Ça veut dire que c'est...
Donc il y a des tendances de consommation quand même qui changent depuis la pandémie.
Oui, oui, absolument. Donc ça veut dire qu'effectivement, ils vont bouger beaucoup plus. Ils bougent beaucoup plus déjà en Chine.
Ouais.
Ils bougent aussi beaucoup plus, évidemment, dans le reste de l'Asie. Donc, la Thaïlande reste...
Et moins en Europe, par exemple. Hein. Ça,
moins
c'est
en Europe,
grand.
Effectivement. Ouais. Mais bon, avec le renforcement du yuan qu'on a vu récemment, on sent qu'effectivement, les Chinois commencent à aller plus loin aussi. Et oui, je pense que c'est un changement structurel de fond, à savoir qu'on a toujours dit que l'économie chinoise devait être moins industrielle, moins orientée exportation et plus orientée service. Et j'ai l'impression que ça, c'est une tendance qui se met en place.
Comment, avec vos collègues en charge de l'allocation d'actifs, hein, puisque vous êtes chef économiste, vous arrivez à conjuguer un petit peu tout ça pour mettre votre expertise au service un petit peu des clients? Comment on arrive à jongler la macro et puis l'allocation?
Oui, ce qu'un économiste peut apporter effectivement à l'allocation d'actifs, c'est véritablement, parce qu'on nous montre à un économiste très simple, c'est d'avoir des vues sur l'activité et l'inflation. Et puis, en fonction de où on se trouve avec ce couple, eh bien, c'est vrai qu'on aura plutôt tendance en tant qu'économiste à vouloir allouer là où l'activité est rebondie et l'inflation est faible ou décline. Et donc là, l'univers pour nous qui est le plus évident à allouer, c'est celui des émergents. Parce qu'on se retrouve toujours avec une croissance au-dessus d'une norme, qui est largement résiliente pour les motifs que j'ai expliqués auparavant, et une inflation qui était en dessous de la cible de manière générale et qui est largement amoindrie par plusieurs effets de ces tendances structurelles que je mentionnais auparavant. Donc pour nous, l'allocation, en tant qu'économiste global, là où elle doit être effectivement largement surpondérée, ça reste les émergents, et c'est là où sont positionnés nos actifs nos gérants multi-actifs. Mais autant que ce soit actions ou obligations, effectivement.
Et en termes sectoriels,
il n'y a pas que l'IA, mais c'est vrai que la tech reste un secteur qui est dominant. Et puis après, ça va dépendre des régions. Ça veut dire qu'effectivement, comme l'Europe, on a des dépenses très claires sur un certain nombre de secteurs, que ce soit justement le renouvelable, que ce soit la défense, etc. Donc là, c'est typiquement des secteurs qu'on va favoriser au sein, effectivement, d'une allocation européenne.
Un petit mot quand même de l'Inde, hein, le Nifty déçoit à nouveau, hein, c'est l'indice indien, on est quasiment à moins 9 hein, en devise locale, sans compter que la devise, elle a encore pris des difficultés ces dernières semaines. Vous avez encore du potentiel pour vous en Inde? Comment vous regardez la situation macroéconomique? Parce qu'on n'arrête pas de dire c'est le pays le plus peuplé du monde, il y a des perspectives qui sont superbes, etc.
C'est ça.
Et en termes d'investissement, ça ne se traduit pas du tout.
Non, alors l'Inde, c'est un peu... Enfin, au sein des émergences, ce que j'aime regarder, c'est effectivement la manière dont les économies sont structurellement positionnées. L'Inde fait partie de ces pays qui sont extrêmement diversifiés. Donc ils sont très manufacturiers, très diversifiés. Donc en général, ça justifie effectivement des ratios cours-bénéfices qui sont plutôt élevés. Donc on est plutôt dans l'ordre des 20, par opposition à des pays qui sont très très concentrés, généralement très exportateurs de matières premières, où ces ratios cours-bénéfices sont plutôt en dessous des 10. Donc, ils bénéficient toujours d'une valorisation forte. Il y a toujours, en plus, ces tendances longues. Je crois que ce dont souffre l'Inde actuellement, c'est effectivement un manque d'exposition à l'IA directement. En revanche, ça reste toujours le pays au monde qui exporte plus de services commerciaux, de services business. C'est près de 15% du commerce mondial, de loin le meilleur. Donc elle a toujours beaucoup d'attraits, mais qui ne sont pas effectivement les attraits sur lesquels les investisseurs se concentrent aujourd'hui.
Merci beaucoup Patrick Zweifel de nous avoir accompagné ce matin, chef économiste de Pictet Asset Management, pour faire un petit tour d'horizon de la situation en Asie d'un point de vue macroéconomique.